חברים יקרים וחביבים, השם עליכם תחיו, שרת עמים, קדוש ברוך הוא, יבו גרד, יבו פרזיר ותו למו, בעזרת השם, נוזלו, אסייה, דנו פרפרה, על ה... על ה... au seder de Pessah, et en particulier à la Haggadah. En préliminaire, quelqu'un m'a demandé de parler de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et en particulier de la Takana de David Hameler. La Gemara dit dans Nahot que Doreshet le pasuk ma Hashem Elohecha Doresh Meimar Kim Lira Oto. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu réclame de toi? Alors il dit de le craindre. Et la Gemara elle fait une dracha et dit ma. Alors il y a plusieurs manières de faire la dracha. Je ne dis pas ma, dit mea. Donc déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu, dans le pasuk de la Torah, il y a une allusion au mea brachot. Après la Gemara dit, à l'époque de David, il y a eu une épidémie. Mea ayum etim bechol yom. Et David Hakar, le tour ramène au nom de Géonim, que David Hakar, il a recherché, il a voulu comprendre qu'est-ce qui lui arrivait, qu'est-ce qui arrivait à cette génération. Et on lui a dévoilé Beruah HaKodesh, qu'il fallait. On lui a pas dévoilé la raison de la chose. Mais on lui a dévoilé la solution à l'épidémie, au fait qu'il y avait 100 personnes qui mouraient chaque jour. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait instituer Mea Brachot. Ça, c'est ce que la Gemara a dit. Tosafot, Rashi, chacun y va de son commentaire pour trouver dans le Passouk une allusion au Mea Brachot. Alors, il y a un commentaire qui dit que même Hé, Ma, en Hadvash, il se change en Yud Tzadik. Donc le yod, quand on fait le hadba, c'est-à-dire que le alef il se change en tav, etc. Donc on fait deux lignes de lettres, on divise les lettres en deux, on met le alef en face du tav, le bet en face du shin, etc. On arrive en bas, le kaf il est en face du lamet. Quand tu écris ma, le ma il peut se changer, le même il se change en yod, et le he il se change en tzadik. Donc tzadik ça fait 90, et yod ça fait 10, ça fait 100. Ma Hashem Elohecha, Shuel Meima. Qu'est-ce que Hashem réclame de toi? Il veut que tu fasses 100 brachot. Ça, c'est une manière de comprendre. Il y en a d'autres qui disent, dans Tosafot, disent, je crois, au Rashi, il dit que dans ce verset-là, il y a 99 lettres, et quand tu ajoutes le Ma Mea, ça fait 100. Donc, allusion aux 100 brachot. Donc, ça, c'est, on lui a dévoilé la solution. Comment résoudre le fait qu'il y avait des gens qui mouraient, une épidémie terrible qui se passait. On lui a pas dit la raison de l'épidémie. Alors, quels sont les mea brachot que l'on doit faire? Quel est le sens des brachot? Alors, la bracha, c'est une amshacha. La bracha, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait la bracha? De quelle brachot il s'agit? Alors, quand on lit le Ramban dans le Chot Tfila, on voit qu'en fait, c'est mea brachot, c'est pas sans je vais faire chez Akol, je vais faire Vore, Atsebesamim, 50 fois, c'est pas ça. Il s'agit du Sederayom. Chachamim ont institué 100 brachot qui jalonnent la journée du juif. Le matin, tu te lèves, tu fais Netila, une bracha. Tu vas aux toilettes, tu fais une deuxième bracha. Après, tu récites 15 brachot ou 18 brachot de Birkot HaShachar. Tu fais les tfilin, les talit, les tfilin, la tfila, encore des brachot. Donc c'est le Rambam, il est des nombres dans le Seder Ayom le Seder Ayom, la journée qui jalonne, ce sont les mea brachot qui jalonnent, qui sont des étapes qui, tout au long de notre journée. Et c'est ça la takana essentielle de David Hameler. Il a souligné quelque chose de très intéressant. C'est que si à l'époque de David, il y a donc cette épidémie, la vie qui se raccourcit. Mais David, il va commenter un verset qui est de la Gemara. Le commandeur, c'est le verset de Moshe Rabbeinu. Alors, quel est le lien pourquoi ce qui va se passer 1000 ans plus tard à l'époque de David est déjà souligné, tracé dans la Torah de Moshe. Et on voit, la Gemara, elle est d'oreshet un autre pasouk, à Gever ou Kamaal, elle est d'oreshet un pasouk qui parle de David. C'est l'homme qui s'est élevé au-dessus, Al, mais ou Kamaal, la référence, elle est Aïn Lamed, ça fait 100. Gever ou Kamaal, c'est lui qui a érigé le Al. Al, c'est les 100 brachot. Donc David, il a institué un concept qui va mettre un terme à cette épidémie. Alors, il y a un shiur exceptionnel de Rav Moshe Shapira dans lequel il explique que l'histoire du monde, elle est faite de périodes. Alors, il y a la première période. La première période, c'est celle de Adam. Adam, il doit vivre 1000 ans. C'est l'âge moyen de Adam. Il va vivre un peu moins parce qu'il va donner un peu de sa vie à David, comme disent Chazal. Puis vient la période de Moshe. Mais là, déjà, la vie, elle se raccourcit. Moshe, il meurt à 120 ans. Puis vient la vie de David. David, lui, il aurait même dû vivre. Il devait vivre quelques heures. Et il va vivre. Combien il va vivre? Il a 70 ans. Et lui-même, David dit, c'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, il y a Adam, il y a David et Moshe. David, c'est la finalité, le début, c'est Adam, mais en réalité, c'est tous ces trois personnages-là ne font qu'un. Ils s'imbriquent les uns dans les autres. Et au fur et à mesure que la vie se raccourcit, de par la nature humaine, de par la dégradation de la nature, de par les fautes des hommes, c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a fixé les choses, que le monde se dégrade, non pas parce que le monde il est voué à se dégrader, c'est que la faute, elle dégrade l'environnement et la vie. Alors David, il a compris qu'il fallait, on lui a dévoilé qu'il fallait instituer Mea Bracha. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mot Beracha? Et ça a un lien fondamental avec la Haggadah. Quand on dit par exemple Vehigata Libincha, le mot Haggadah, le Hagid, quel est le sens du mot le Hagid? Le Hagid, ça veut dire raconter. Mais le récit, c'est pas juste un récit. Le récit, dans le Targum, on dit Amshacha, les Amshich. Alors, c'est ça la bracha. La bracha, c'est un concept de Amshacha. Comment expliquer cela? La vie, les flux, les énergies de vie sont distribuées, mais ils sont limités. Comment faire pour que. C'est-à-dire que si par exemple on veut irriguer un champ, donc on va faire un canal à partir d'une rivière ou d'une source. On va ouvrir les eaux et l'eau va pénétrer dans les canaux pour arriver jusqu'au champ. À un moment donné, il n'y a pas suffisamment de force dans l'eau pour arriver jusqu'où on voudrait arriver. Alors il faut amplifier le flux de l'eau pour que ça aille au-delà. C'est quand on va au-delà de ce qui est fixé qu'on est dans la bracha. C'est le sens du mot bracha. Par exemple, pour comprendre mieux cela, le genou est appelé berech. Pourquoi le genou s'appelle-t-il berech? Quel lien y a-t-il entre la beracha et le genou? Alors, nous disent les farchim, rabotez nous disent que le corps de l'homme, dans le Zohar, dans le Hari, il dit que le corps de l'homme, il devrait s'arrêter au genou. Maintenant, l'homme, il manquerait une partie de son corps. Donc, le Berech, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que la jambe, elle se continue au-delà de ce qui lui était fixé. C'est le Lachon Amshacha. C'est le Lachon, c'est ça ce que ça veut dire, ouvrir chaque fois que l'on dit le mot Beracha. On dit, la bracha, elle commence par le mot barour. Alors, imaginons qu'il y a un réservoir de vie dans les cieux. Et ce réservoir-là a un robinet qui s'ouvre et qui est ouvert et qui coule au goutte à goutte. Chaque fois que nous disons la bracha, alors nous ouvrons les vannes de ce robinet. Nous faisons que le flux, il va se déverser avec plus de puissance, plus de qualité, plus d'intensité, plus d'amplitude, plus de force, pour qu'il aille au-delà de ce que normalement il aurait dû attendre. C'est le sens du mot, c'est ça le sens du mot beracha de manière fondamentale et essentielle. Et c'est ça le sens même de la continuité de la vie. C'est ce que David a compris. Lui-même, il n'aurait même pas dû venir au monde. Donc, il a compris qu'à son époque, pour perpétuer, pour faire en sorte que la vie aille au-delà de ce qui est fixé, on doit introduire ce concept de la Hamshacha. Et toute la puissance de la bracha réside dans la kavana que l'on va mettre quand on va prononcer la bracha. Donc déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu, la vie se réduit. Mais déjà, quand la vie se réduit, nous avons déjà une enfouie dans la Torah la possibilité de réparer cela. Et ça va jaillir au moment où David va se retrouver dans la situation de s'interroger, qu'est-ce qui m'arrive? Et souvent, on ne comprend pas la raison des choses. Alors, pourquoi c'est arrivé ça à l'époque de David? Parce que lui-même était dans cette situation-là. Donc, lui aussi, il a besoin, de la même manière qu'il y a quelqu'un qui lui a donné la vie, donc qui lui a fait don d'une partie de ses jours, alors que ce soit Adam Harishon, ou que ce soit les Avot Akdoshim, chacun il a donné quelque chose, etc. Peu importe. Mais David prend conscience que lui-même, il était un enfant, un mort-né. Donc il a, sa vie, elle dépend, le peu de vie qu'on lui a donné, il est dans l'obligation, il est dans la situation de faire en sorte que ça aille au-delà. Et c'est ça tout le concept de la sortie d'Égypte. Si on veut. C'est un lien fondamental. Puisque nous disons, qui c'est le Goël? Qui c'est celui qui va venir nous délivrer? Alors, il est marqué dans les textes que quand Moshe Rabbeinu, il est devant le buisson, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, va délivrer, délivre-les. Parce que si toi tu vas pas, personne ne pourra les délivrer. C'est-à-dire que c'est pas si en Égypte tu les délivres, si toi tu vas pas en Égypte, alors ils sortiront pas d'Égypte. Il ne s'agit pas de l'Égypte. Il ne s'agit pas uniquement de sortir d'Égypte. Il s'agit en réalité que Moshe, c'est lui le Goël Aharon. Et c'est ce que nous disons. Regardez ce qu'il est dit. Rav Shimshon ramène ça à la fin de sa lettre. Il dit, Kime, c'est un pasouk dans Micha. Kime, tsetenu me'eretz Mitzrayim, arenu nifla. Alors, il y a marqué, comme au jour de ta sortie d'Égypte, Kemet, c'était nous, mais de notre sortie d'Égypte, je te montrerai des prodiges. La question qui se pose, pourquoi il y a marqué au pluriel, Kemet, c'était nous, mais Eret Misraël? Pourquoi Kemet? Kéyom, c'était nous, mais Eret Misraël? C'est-à-dire, en vérité, La sortie d'Égypte, il y a deux sorties. Il y a deux. La sortie, c'est pas juste une sortie. La sortie d'Égypte, elle contient en elle la sortie de la galoute finale. Et qui est celui qui doit nous faire sortir de cette galoute? C'est Moshe Rabbeinu lui-même. C'est à ce sujet qu'on dit que si toi tu les libères pas, personne ne pourra les libérer. Donc c'est ça le sens de la Hamshacha. Donc, nous avons ici un secret qui est perpétuer la vie au-delà de ce qui est fixé, au-delà de ce qui est attribué. Aller au-delà. Et il semble que David réussisse là. Il semble certainement que David a trouvé la solution. Et que les Chazal ont institué donc les Mea Brachot. Les Mea Brachot, sont en relation avec les Mea Adanim. Les 100, dans le Mishkan, il y avait Mea Adanim, 100 socles. Et le Aden, qui carre le Aden, c'est, ça s'écrit, c'est le Shem Adanut, Aleph Dalet Nun Yod. Et ce Aden-là, il contient, c'est la Berecha qui contient la Bracha. C'est le socle, il est en bas. Mais ce socle-là, il contient la Bracha, et cette Bracha-là, elle fait que le système, il tient, que les planches tiennent. Donc, c'est toute là, l'énergie de vie, elle est contenue en nous. Alors, regardons ce qui est dit, par exemple, au sujet de la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, il y a un passage très intéressant. À la fin de la Megillah, on nous dit, Layudim, Aïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vika. Les Juifs, c'était la joie, la aura, la lumière, la simcha, ça sonne. Alors, Chachamim, ils ont dorshim. Chaque mot du pasuk, il est commenté par rapport à une mitzvah. Alors, ils ont mis les tfilin, ils ont étudié la Torah, ils ont fait Shabbat. Ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à présent, ils ne faisaient pas Shabbat. Jusqu'à présent, ils ne mettaient pas les tfilin. Ils ne mettaient pas le talit, ils ne faisaient rien. C'était des gens, ces juifs-là, qui étaient, où il y avait Mea Esrim Chachamim Antiknesset Akdola. Il y avait plusieurs prophètes, il y avait plusieurs rabbins, etc., des gens exceptionnels. Tous ces gens-là, ils ne pratiquaient plus la Torah. Parce qu'à la fin de la Megillah, il y a marqué Laodim Aïta Ora. Bah, tout d'un coup, il y a eu quelque chose d'exceptionnel. En effet, il y a eu quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que le galout, c'est la situation dans laquelle on est. C'est qu'on dort sur notre passé. Ça, le concept du galout. Le concept du galout, c'est que nous sommes installés dans notre passé. Alors, je prendrai l'exemple suivant. Il y a, dans les années 80, 84, 85, j'habitais à Ashdod. Et à Ashdod, tout le monde sait qu'il y a une succursale de la Yeshiva de Ponyevitch, ce qui est Yeshiva de Godna. Et à cette époque-là, la Yeshiva de Grand a existé et ils ont inauguré un bâtiment qui allait devenir la Yeshiva Ktana de Grodna. Et on l'a appelé Yeshiva de Vilkomir. D'ailleurs, c'est le fils de Rav Shmuel Rozovski qui était Rosh Yeshiva, qui est devenu Rosh Yeshiva. Et ce jour de l'inauguration, il y avait Gdolé Alain, il y avait Rav Shach, il y a un rabbin qui a dit nous allons construire une yeshiva. C'est pourquoi nous, on a fait la yeshiva ville commune. Quel rapport? Nous, on est avec Jod. On va qualifier la yeshiva de ville commune. On est à Jod, on appelle la yeshiva de Grodna. On appelle Pogné. Pourquoi? Quel est le sens de cela?
Ouais, c'est bon.
Allô? Vous m'entendez?
Oui, parfaitement, Michel. Continue. Pardon.
Pourquoi on appelle ça comme ça? Alors, il a dit, le rab, il dit un midrash. Il dit, il y a un fameux midrash qui dit que Abraham Avinu, il a béni Yitzhak. Et là où Abraham il s'est arrêté, Yitzhak il a béni Yaakov. Là où Yaakov il a béni ses enfants, là où il s'est arrêté, Moshe Rabbeinu il dit Vezot Aberacha, c'est-à-dire c'est une continuité, même si c'est longtemps après, c'est une continuité. Après il rapporte, là où Moshe Rabbeinu s'est arrêté, alors David il a continué, Ashrei Ha'ish, etc. Donc le Midrash, il met une continuité dans l'histoire juive d'entre la bracha de Abraham, celle de Yitzhak, celle de Yaakov, celle de Moshe, celle de David, etc. Donc c'est comme si il y a une interruption dans le temps. Mais même s'il y a une longue interruption dans le temps, là où je me place, je continue ce qui a été fait auparavant. Pourquoi? Parce que chacun qui a agi, il s'inscrit dans une continuité pour atteindre une finalité. Et ce rabbin, il a dit, c'est pour ça que nous, on ne regarde pas vers derrière, mais on est venu là avec tout notre patrimoine, avec tout ce que nous avons, 1500 ans de présence juive en Europe, en Lituanie, en Pologne, etc. Quand vous allez là-bas, il n'y a plus rien. Alors, où sont passés toute cette Torah? Alors, quand les Juifs sont partis, ils ont amené ça avec eux. Et là, maintenant, 50 ans après, on construit une yeshiva. Alors, on l'appelle sur le même nom qu'elle avait là-bas. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interruption. On est dans la continuité. On est dans la hamshacha. On perpétue. Et c'est ça le sens profond des yeshivot, surtout les yeshivot ashkenazes, qui ont gardé le nom des yeshivot en Lituanie. Pas parce qu'ils ont la nostalgie de la Lituanie. Quelle nostalgie peuvent-ils avoir? Ils ont souffert le martyr là-bas. Ils étaient 1000 ans ou 1500 ans de souffrance et de pression. Mais la Torah qu'ils ont innovée là-bas, elle est partie avec eux, ils l'ont gardée et ils l'ont utilisée comme tremplin pour aller de l'avant. C'est ça le sens même de l'âme, ça. Ce qui est marqué ici. C'est marqué ici, Vigata le bincha. C'est-à-dire que tu dois être mamshir. Les gens, ils ont la nostalgie. Alors nous, on a la nostalgie de notre Afrique du Nord. Les gens, ils disent, on était en Algérie, on était au Maroc, ça nous manque. C'est regarder derrière, c'est la nostalgie. Mais c'est pas ça le sens profond. C'est-à-dire que nous sommes arrivés là, nous avons tourné la page, mais nous ne sommes pas coupés de notre passé. Nous portons avec nous tout le passif, tout ce passé-là, nous le portons avec nous. Non pas pour le garder, mais pour qu'il nous permette de rebondir et d'aller vers l'avenir, vers l'avant. C'est ça la hamshacha. D'ailleurs, c'est pas juste de prendre ce que l'autre il a fait et rester dans ce qu'ils ont fait la génération précédente. Il s'agit que chacun, il va innover un nouveau derrière. Et c'est ça ce que David Hamelech il a fait. C'est ça ce que il s'est passé dans le galout de la Megillah. Ils étaient dans un galout tel qu'ils se sont installés dans des attitudes, dans des postures, dans des pratiques, dans des usages. Qui était comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Et si c'est comme ça, on va tout le temps continuer à faire ça. Et on voit que ça a amené à une catastrophe. Et c'est seulement après qu'ils vont prendre conscience. La Yodim, Aïta, Aura, une lumière énorme. Mais la Torah, c'est toujours été une lumière, non. Il y a eu ici quelque chose, une transformation, une prise de conscience différente. Aura, Simha, quelqu'un, il fait Vicar, il met le Tilim. Ah, c'est précieux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on a toujours mis le Tilim, c'est pas nouveau qu'on mette le Tilim. Et dans la manière, c'est pas le tuning qui est nouveau, c'est comment tu le mets qui est nouveau, comment tu apprécies les choses, comment tu t'investis dans la mitzvah, quelle relation, quel rapport tu as à la mitzvah. Tout ça doit changer. Et parfois, on n'est pas capable de le faire de nous-mêmes, alors on est mis dans des situations qui vont nous obliger à aller chercher un renouveau, au fond de nous-mêmes. Parce que la situation l'exige. C'est ce que a fait David Hamelech. Donc, David Hamelech, il a inventé un concept que sur chaque chose, on fait une bracha. Sur chaque élément, chaque détail de la vie, on fait une bracha. C'est-à-dire, avant, quelqu'un, il va aux toilettes. Pourquoi il va faire une bracha? Il fait une fois, peut-être dans la journée. Il fait pas. Quelle nécessité il y a? Il est conscient que Akash Bokho lui permet d'exister, de se soulager, de vivre, que la machine homme puisse fonctionner normalement. Il est conscient. Non, on a besoin, la conscience du passé, de ce qui est acquis, elle marque sa limite. Il est nécessaire d'innover une nouvelle prise de conscience pour que nous puissions passer dans le futur, dans l'avenir, rebondir vers quelque chose d'autre. C'est ça ce que Akash Bokhu exige de nous. Et ça, c'est essentiellement le concept que explique Rav Moshe Shapira dans son shiur. Moshe Rabbeinu, il a réduction du temps. La réduction du temps, c'est-à-dire qu'il meurt à 120 ans. C'est le Ramchal explique ça dans Adir Bamarom. Il dit que les deux premiers millénaires, les gens, ils vivaient 1000 ans. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce qu'un type il pouvait faire pendant 1000 ans? Imaginez un type, à l'époque de Adam Harishon, il vit 1000 ans, il a ni portable, ni télé, ni truc. Il fait quoi toute la journée? Il fait quoi ce bonhomme-là toute la journée? À quoi il va occuper son temps? Il n'y a rien à faire. Il joue aux cartes, il fait quoi? Il n'a pas de vie, il n'y a rien. À l'époque de mon cher Abelon, vivent 120 ans les gens. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant 120 ans? Là, peut-être c'est moins long. Peut-être qu'ils s'occupent de manière différente. Ils sont dans les nuées, ils étudient un peu de Torah. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. À l'époque de David, la vie, elle se réduit. Cette notion de réduction, ça signifie que la vie est plus intense. Ça veut dire que nous, on vit une vie avec une intensité. Imaginez votre arrière-grand-père assis à la porte de la synagogue du Mélard de je sais pas quel bled en Afrique du Nord. Et il est assis. En une journée, il va être informé de ce qui se passe en une journée. Un événement anodin. Aujourd'hui, en 5 minutes, on sait plus de choses que lui en 100 ans. On vit, on est au courant, on est informé. Le monde, aujourd'hui, ce que nous vivons en 5 minutes, c'est ce qu'un bonhomme, il y a 100 ans, il vivait en 100 ans. C'est de la même appréciation. Donc, on voit que la vie, elle a une intensité. Nous sommes rentrés dans un domaine, dans une dimension différente. Alors, Adam Harishon, il vivait 1000 ans, parce que la Hanaga, elle était une Hanaga beaucoup plus haute. Parce que le Ramchal explique, c'est Hanaga Taketer. C'est une anaga de bonté totale. Donc, ils n'avaient pas grand-chose à faire, mais ils avaient une conscience exceptionnelle où ils pouvaient réparer les mondes qu'avec leur conscience et leur kavana. Ils ont failli à cela, ils n'ont pas réussi. Donc, à l'époque d'Abraham, ça va se réduire. Ça va se réduire parce qu'on va commencer à devoir agir, travailler du bas vers le haut. Donc, c'est pas que Abraham, il est plus grand que Noah. C'est qu'Abraham, il a été, le travail qu'il doit faire, il est réduit. Donc, il doit travailler du bas vers le haut, alors qu'avant, c'était du haut vers le bas. À l'époque de David, il doit faire entrer sa génération dans le concept de la délivrance finale. David Ameller, c'est le Mashiach. Il doit ouvrir une porte, il doit ouvrir une possibilité aux générations à venir d'atteindre un concept qui est l'éternité, la réparation totale et finale de ce monde. C'est ça la notion de bracha. C'est la hamshacha. Aller au-delà de olam ke minago noeg, mais nous, on va dépasser le minago shel olam. On va aller au-delà de cela et on va faire se répandre la vie, les énergies, les flux de vie, les énergies de vie, au-delà de ce qu'il est raisonnable, disons, dans la rationalité, que ça arrive. C'est ça le concept, c'est-à-dire on va rentrer dans un concept qui est en dehors de la nature. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est dépasser le concept de la rationalité dans laquelle nous vivons. Et c'est ça, en fait, le lien qu'il y a entre la Haggadah de Pessah et la Bracha. Le concept, c'est le même terme, comme dit le Targum. Haggadah, c'est Hamshacha. Alors, qu'est-ce qu'on doit être Mamshir? Qu'est-ce qu'on doit être Mamshir dans la Haggadah de Pessah? Qu'est-ce qu'on doit réparer? Qu'est-ce qu'on doit construire? Alors, le Seder, le plateau du Seder, il constitue il est à notre image. Donc, regarde, j'ai souvent expliqué que, comme il explique Rabbi Moshe Cordobero au début de son Sefer Tomer Deborah, Adam, Raouchid Damé l'Econo. L'homme, il lui convient de ressembler à son créateur. Alors, en fait, l'homme, il ressemble à son créateur. La structure de l'homme, elle est à l'identique de la structure des mondes spirituels. Alors j'explique, c'est pas que dans le monde spirituel il y a un corps. Ce que nous appelons corps, nous, par exemple. Rav Dessler, il explique ça quelque part au sujet de Bereshit. Il dit par exemple, et Rav Yitzhak Raver, sur les klalim rishonim du Ramcha, il explique ça aussi. Il dit comme ça, il dit comment je parle de la main, Alors, c'est quoi la main? La main, c'est 5 doigts, une paume, avec 14 phalanges, un bras, etc. Ça s'appelle la main. Il dit, moi, en vérité, est-ce que dans le ciel, il y a une main? Alors, on va dire, dans le ciel, il n'y a pas de main, mais c'est un langage emprunté. Ça veut dire qu'on va utiliser un langage humain pour qualifier quelque chose qui est dans le ciel, qui n'a rien à voir avec la main. C'est ce qu'on va penser en général. Nous disent les Mkoubalim, c'est faux. C'est pas ça du tout le pshat. Quel est le pshat? Il dit, notre main, c'est le sens figuré de la vraie main. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait vivre? C'est quoi? Pourquoi ma main s'appelle Yad? Parce qu'elle a un concept, c'est un concept physique qui contient des énergies. Ces énergies-là sont les mêmes ou à l'identique des énergies qu'il y a dans le ciel. Il y a une main. Dans le ciel, il y a une tête. Alors, ma tête, elle ressemble, elle est le sens figuré de la tête qu'il y a dans le ciel, etc. Donc, c'est-à-dire que nous, notre corps, il est le sens figuré de la réalité qui est dans le ciel. Donc, Adam, Raoui, Shidame, Lekono, l'homme ressemble, il lui sied d'adopter et de ressembler, non seulement dans la structure, mais aussi dans les actes. Il doit ressembler à son créateur. Alors, c'est quoi l'homme? L'homme, c'est une structure qui est l'arbre séphirotique. Il est à l'image de l'homme. Il y a dans la tête trois éléments fondamentaux qui sont les trois sphirotes de l'intellect. L'essentiel de la puissance d'un homme, c'est sa capacité à réfléchir et à l'intelligence, à comprendre. Après, il y a la structure au niveau du buste, des deux bras, le buste, les deux jambes, le membre. Tout le reste du corps, tout ça, c'est la structure basse. Donc, cette structure-là, ce sont les Shiva Midot, et les sept Midot que nous récitons pendant le Homer, le Hesed, la bonté, le Din, l'harmonie, la compassion, etc. Toutes les Midot que nous employons dans la Sphirata Homer. Mais elles, ces Midot-là, elles sont les Midot du monde de l'espace, la dimension de l'espace. Cette dimension-là, elle se retrouve dans la Kéhara. Cette structure-là, elle se retrouve dans la Kéhara. Nous avons trois matzot. La matza, c'est du blé. Le blé, c'est la connaissance et la compréhension. Haïta, ça fait 22. La Gemara, elle dit que la Adam Arishon, il a mangé l'arbre de la connaissance. C'était Haïta. Et que l'enfant, il ne peut distinguer son père et sa mère que lorsque savoir et prononcer les premières que lorsqu'il aura goûté ta'am hita. Donc la hita, c'est la connaissance. Donc c'est au niveau de l'intelligence, développement intellectuel, la possibilité de l'homme de réfléchir. Il est à noter que la définition de Dieu elle-même, c'est la définition de l'intelligence. Donc Dieu lui-même est défini par l'intelligence, comme il dit Rambam au début de son Sefer dans les fondamentaux. Il dit que Kadosh Baruch Hu, comment je vais savoir qui c'est Dieu? Je vais réfléchir sur l'intelligence qui se trouve dans la création. L'intelligence, et l'homme, il est intelligent. Donc, il est créé à l'image de Dieu. Donc, il est intelligent. En quoi il ressemble à Dieu? Il est intelligent. Donc, il est un peu intelligent comme Dieu. Donc, de par son intelligence, il va pouvoir dévoiler l'intelligence de HaKadosh Baruch Hu. Il va se lier à ce moment-là à cette intelligence. Ça, c'est le concept de la matza. Alors, il y a trois niveaux qui sont le chokhma. Chokhma, c'est la leçon qu'on vous donne. C'est quand le prof, il fait son cours. Il dit ce qu'il a à dire. Maintenant, la bina, c'est ce que l'élève, il va découvrir. Donc, en vérité, le bon prof, il dit pas tout, il dit un peu et il laisse l'élève découvrir par lui-même. Donc ça, c'est la bina. Donc le prof, il dit un peu, il permet à l'élève, il se met en retrait, c'est le concept même du tzimtzoum, il laisse la place à l'élève, le prof qui parle tout le temps, donc il étouffe son élève, l'élève, il n'existe pas. Mais si le prof, il parle un peu, et après, il laisse à l'élève la possibilité de dévoiler, alors il se met en retrait. Il laisse vivre l'élève. L'élève, il va commencer à comprendre. Il dit, ah, le rabbi, il a dit ça, mais moi, je comprends ça. Je déduis. Donc, la bina, le discernement, etc. Et après, il y a le da'at, la conscience d'exister. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il existe? Comment avoir conscience de ce que je suis? c'est une grosse problématique psychologique. C'est-à-dire que, ça veut dire que, comment, à quel moment j'ai conscience d'être moi-même? Et à quel moment j'ai conscience d'être ce que je suis? Par exemple, prenons l'exemple d'un enfant. L'enfant, il est dans son lit, il vient de naître, il a mal au ventre. Alors, il pleure, il est pas bien. Il sait même pas pourquoi il est pas bien. Alors, la maman, elle arrive, elle lui dit, ah, tu as faim. Alors, elle décide qu'il a faim. Donc, elle comprend qu'il a faim, il pleure parce qu'il a faim. Alors, elle lui donne le biberon. Ou bien, elle décide qu'il pleure parce qu'il faut le changer. Donc, est-ce que lui-même, l'enfant, il est conscient qu'il a faim? Ou bien, maintenant, il va comprendre que quand lui, il pleure, il a faim. Pourquoi? Parce que sa mère qui lui a dit qu'il a faim. Mais lui-même, est-ce qu'il a conscience d'avoir faim? Est-ce qu'il sait qu'il a faim? C'est là. Est-ce que c'est une conscience rationnelle, objective, ou bien c'est le fait de qu'on t'a habitué à croire que tu as faim alors que tu as faim? Et c'est comme ça qu'on grandit. On grandit parce que ce que nos parents, ils nous ont inculqué. Mais nous devons exister en nous détachant de nos parents. Nous devons nous détacher de nos parents. Nous devons prendre conscience de nous-mêmes. Et c'est seulement après nous être détachés, en particulier de notre mère et de ce que elle nous a inculqué, on prend du recul. On va utiliser ce qu'elle nous a dit, mais on va rétablir ce que nous sommes nous-mêmes, que nous pourrons passer dans le da'at, avoir la conscience de soi. Ça, c'est un fondamental de la conscience d'exister. Nous disons que nous sommes par rapport au regard des autres. Mais là, nous devons avoir le da'at de par nous-mêmes. Et ça demande beaucoup d'intelligence et de réflexion. Ça, c'est les trois matzot. C'est les trois premières matzot. Après, nous avons la structure plus basse. Alors, nous avons le zeroa qui est à droite. Beyad hazaka, etc. C'est la main de la bonté. En face, nous avons la betsa qui symbolise le hagiga. C'est la rigueur. Et au milieu, nous avons le maror. Le maror, ici, il fait le trait d'union, il est à la place de Yaakov. Il fait le trait d'union entre les Avram, Israël. C'est ce qu'on appelle les middot anagat amishpat. C'est-à-dire que il y a la balance qui est devant qui est le symbole du tribunal. Donc, le plateau à droite, le plateau gauche, et le fléau qui fait l'équilibre. C'est Abraham et Yaakov. Après cela, nous avons la mise, parce que c'est au niveau de l'émotion. C'est-à-dire, toute la Avodat Hashem, elle est de traduire la compréhension, le da'at que j'ai, traduire cela dans des émotions. Comme il dit le Rama Cordovero. Il faut traduire la connaissance par les actes et les traduire par des émotions. C'est-à-dire quand je dis je vais travailler la Avat Hashem, alors j'exprime la mitzvah par la Avat Hashem. Parce qu'il dit, ma'ita aura, la joie, la lumière, je suis illuminé. Quand je dis yekar, alors ça veut dire yekar, la mitzvah de tefillin est une mitzvah précieuse. Alors quand je la fais, précieuse, c'est comme si j'achète un diamant. Donc je vais pas m'acheter une paire de tefillin à bas prix. Je vais acheter la mitzvah, je vais mettre le prix, je vais investir et je vais faire ça de toutes mes forces. C'est ça la rigueur, etc. Dans chacune des mitzvot, quand je prends conscience de la valeur de la mitzvah, c'est alors que je vais pouvoir pratiquer la mitzvah avec mes émotions. C'est ça, en réalité, le pshat de du pasuk, c'est-à-dire, ils ont pris conscience de ça. Après, il y a le monde de l'action. C'est au niveau des gens. Moshe, Aaron et Yosef. Donc, ce sont les trois autres parties de les trois derniers éléments qui composent le système. Et nous avons à droite le Karpas, à gauche le Haroset et en dessous le Hazeret. En réalité, la Hazeret et le Maror, c'est la même chose. Donc nous, on a l'habitude de mettre en haut de la en Maroc, on met de la Hassa, donc on met de la romaine, et en bas on met de l'endive. Mais en vérité, quelle différence entre les deux? Alors, c'est pas difficile. Le Maroc, on l'utilise pour manger le Maroc, et la Hazeret, on l'utilise pour manger le Coréen. En gros, c'est ça, c'est ça. Mais en vérité, on peut mettre les mêmes, c'est les mêmes qui sont là. Mais ils sont en deux éléments. Et le plateau lui-même, c'est le Malchut, c'est David. David, lui, le plateau, c'est le réceptacle de tout Pessah, c'est l'affirmation du Malchut. C'est quoi le Malchut? Alors peut-être qu'hier, on a expliqué, je ne me rappelle pas si on a expliqué ça hier. On a dû expliquer un peu au sujet du Shabbat, que le Shabbat, il est en bas, et la semaine, toutes les énergies de la semaine se déversent dans le Shabbat, et quand le Shabbat reçoit toute cette énergie, alors il s'élève. Et il va se placer au-dessus du système comme une couronne. C'est le même concept que David. David, il était un simple berger. Quand Shmuel le désigne, alors les gens, ils veulent de lui. Donc, c'est les gens qui donnent les énergies à ce roi. Donc, lui, maintenant, il représente chacun. Et chacun se retrouve en lui. Et ce roi-là, il est un individu qui englobe l'ensemble de la nation. C'est comme ça que ça marche, même dans la réalité du quotidien. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tel grand rabbin, tel autre grand rabbin, il a des forces exceptionnelles, etc. Bon, peut-être, mais souvent, quand on a connu, par exemple, il y avait le père, il était vivant. Et le fils, il était là, on le voit, le fils. Il a rien d'extraordinaire. Quand le père, il meurt, le fils, il prend la place du père. Tout d'un coup, le fils devient une autre dimension. Mais entre hier aujourd'hui, comment il a pu changer? Il dit, c'est à ça que ça tient. En vérité, il n'a pas changé. C'est les gens qui lui ont octroyé leurs énergies. Quand on va choisir quelqu'un pour nous guider, alors ce sont, s'il y a un rab ou un guide ou n'importe qui, il entraîne avec lui 1000, 10 000, 50 000 personnes. Ces 50 000 personnes, c'est eux qui lui octroient, qui lui donnent la force. Et lui, il n'a pas de force de par lui-même, il a la force des gens. C'est les gens qui lui donnent la force. Et à ce moment-là, c'est eux qui le portent. Et c'est ça le concept même du roi. Donc le roi était un sympa, il monte en haut du système et il s'élève. C'est la Hamshacha. Encore ici, nous avons encore une fois le concept même de la Hamshacha. Le fait de faire de quelque chose de tout petit, quelque chose d'énorme. C'est, si on veut, ce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu dans la Tfila, le fameux rêve de Shlomo HaMelech, quand il a rêvé, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux, je te donne? Alors, il lui a dit, je veux la Torah, je veux la connaissance. Il dit, mais alors, la question qui se pose, Dieu lui a accordé, mais c'est la question qui se pose. Moi, on m'a toujours dit que la Torah, on peut pas acquérir la Torah comme ça par intraveineuse, on va te donner gratuit. La Torah, c'est le Hamal. Il faut l'ornain, mon vieux. Il faut faire le chasse, il faut user son pantalon sur les bancs de la yeshiva des heures et des heures. Il faut suer pour comprendre, et après tu comprends. Mais on te donne pas gratuit. Et Shlomo HaMelech, il veut gratuit. Comment ça marche? C'est pas logique. Et en vérité, Shlomo HaMelech, il a été armé. Il connaît toute la Torah. Mais il veut que la Torah, de quoi est faite la Torah? Observez le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi est faite la halakha? De quoi? C'est un détail, d'un petit détail, encore un petit détail, et un petit détail là, et un petit détail. Que des détails. Des petites choses insignifiantes. Alors, tu prends n'importe quelle petite mitzvah, elle est composée de milliers de détails. Et chaque détail a son importance. Maintenant, ce détail-là, ce n'est qu'un détail. Dans quoi ce détail-là, c'est pas n'importe quand on écrit un téphiline sur un klaf, la lettre elle doit être écrite de telle manière, avec telle encre, de telle manière comme ça, sur tel parchemin. Chaque détail de détail, c'est des souillottes entières. Dans quoi ce détail-là, il contient tout le système? C'est ça ce que Shlomo HaMelech voulait. Il voulait que le moindre détail que j'étudie, en fait, c'est pas un détail. c'est d'une dimension qui englobe toute la Torah. C'est ça ce que nous disons. Nous disons, Beten Bili Benu Bina. Donne-nous la Bina, le discernant. Pourquoi faire? Pour l'Avin, l'Aski, l'Ishmoa, l'Ilmod ou l'Amel. L'Ishmoa Melas. Donc là, on a englobé toute la Torah. Comprendre, enseigner, maîtriser, appliquer, compléter. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Après, on dit, illumine nos yeux de ta Torah. Et on est que dans la Torah. On était encore, déjà dans la Torah. L'Ilmod ou l'Amel, l'Ishmoa Melas. Ou le Kaim El Kodret à votre travail avant. Ça y est, tu as tout fait. Non, après, il y a marqué V-A-R, N-N-O, Torah. Ça veut dire ça. Illumine nos yeux de ta Torah. Mais c'est, on est dans la Torah, on connaît toute la Torah. Tu nous as donné, on a étudié, on connaît, on maîtrise le chasse, les poskim, toute la bibliothèque, on connaît. Et on comprend. Donc, ça veut dire quoi? V-A-R, N-N-O, Torah. C'est ça la dimension. C'est une autre dimension. C'est une dimension que j'ai une analyse, une compréhension que chaque détail n'est pas un détail. Chaque détail comprend tout. C'est de là-bas que nous apprenons. Chez Osim Seaouda, les Gomrach et le Torah, nous dit le Midrash. Ce que Shlomo HaMelech, il a eu, quand il est arrivé, il est revenu au temple, il a fait une Seaouda, Al Gomrach et le Torah. C'est de là-bas qu'on apprend. Ça veut dire que conclure la Torah, c'est quoi? C'est un dernier verset. Mais en réalité, le dernier verset, il est au premier. Tout est englobé, tout est imbriqué, tout est attaché. Il n'y a pas un élément qui est un détail. Il n'y a pas de détail dans la Torah. Chaque détail, c'est toute la Torah. Chaque détail, c'est l'ensemble. Chez moi, Chacham dit que quand la Torah, quand la Shemotav, c'est la Kadosh Baruch. Tous les mots de la Torah, c'est les noms de Dieu. Et Rama Mifano, il dit plus. Il dit non seulement la Torah, ne crois pas que c'est seulement le Sefer Torah. Les Lévim, les Kitouvim. Il dit le Chas, le Mishnah, les Midrashim, tous ces Shemotah, j'ai la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un mot pour rien. Et on va s'en apercevoir quand nous allons lire le commentaire de Rav Shimshon d'Ostropoli sur la Haggadah. Là, on le voit de manière exceptionnelle. Que ce qu'il a dit, Rabbi Menachem Mazal Nifano, c'est ce qu'il dit, Rav Shimshon d'Ostropoli. Il dit que nous, on lit le Mishnah. On lit une Mishnah. On lit un peu de Gemara. Alors, on aurait pu dire ce mot-là, on peut dire ce mot-là. Obligé, on peut s'arranger. Même le nom du rabbin. Alors, celui-là, ce rabbin-là, je sais pas comment il s'appelle Rabbi Yossé. Pourquoi il s'appelle Rabbi Yossé? Ah, c'est son nom. Des fois, c'est même pas son nom. Des fois, c'est un surnom. Alors, pourquoi on emploie tel mot? Il y a des rabbins, on ne sait pas d'où ils sortent leur nom. Il y a des gens qui sont mentionnés dans le chasse, on ne sait pas d'où ils sortent. On voit que tout, le moindre détail, la moindre virgule, elle compose chez Motav, chez la Kadosh Baruch. Il y a un niveau de Torah chez Birta, un niveau de Torah chez Birta. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Tous les moindres détails qui sont mentionnés dans le chasse, les poskim, les midrashim, tout ça, pas les poskim, mais le chasse, le Yerushalmi, les midrashim, tous les Mahamari Chazal, tous contiennent les secrets de la Torah. Ce sont tous les secrets de la Torah. Il n'y a rien qui est au hasard, qui est par hasard, qui est tel mot, on aurait pu changer par un autre mot. Chaque mot est à sa place. Chaque mot, c'est pas un mot, c'est un nom de Dieu, c'est une composition. C'est des orotes, en vérité, c'est des lumières. Et quand on lit cela, on dévoile et on est mamchir les orotes. On doit être mamchir les orotes. On doit diffuser, faire aller au-delà la vie. C'est la vie, c'est les énergies. Alors, je vous propose qu'on commence la lecture. Donc, nous sommes le sort de Pessah. Nous devons nous construire. La mitzvah, en général, la mitzvah que nous accomplissons, chaque mitzvah que nous accomplissons, elle nous construit. Alors, on se construit. Bon, le système de la construction humaine, elle est complexe. Mais nous sommes le monde, Chachamim dit, Shisha, Alfe, Shana, Ver, Alma. Le monde, il a 6000 ans. Maintenant, est-ce que c'est 6000 ans en temps, en jour, en réel, en mesure de temps ou en concept? Donc, je veux pas rentrer là-dedans parce que j'ai peur de décevoir certains. Je ne sais, mais a priori, c'est pas comme on comprend. En tout cas, ce sont des sphirotes, c'est des aurotes, c'est des lumières. Donc nous sommes, nous, en 5780, nous sommes dans le sixième millénaire, et chaque jour, chaque année, donc le millénaire, il est le Yesod, alors 5700, on est 700, donc on est dans le Hod, la huitième sphira, 80, on est dans Hod de Hod, on est rentré dans des sphirotes du détail. Chaque jour, c'est une énergie nouvelle. Chaque semaine, c'est une énergie nouvelle. Chaque mois, c'est une énergie nouvelle. Chaque heure, les mois, ce sont les composantes. Chaque mois, il a une composition du Shema Vaya. Baruch Hu, nous sommes en Nissan. Alors, le Shema Vaya, c'est Yudke Vavke. Mais quand nous allons passer en Yah, alors ça va tourner. Les lettres tournent. On est Yud, Vavke, etc. Donc, ça tourne. Et au fur et à mesure, ça tourne. Les compositions tournent. Donc, à chaque mois correspond une énergie particulière. À chaque heure de la journée correspond une énergie particulière. Il y a des temps de bonté, des temps de rigueur, des temps où les deux sont en phase. Lisez Tomer Deborah, il explique qu'il y a des moments où il est bon de développer les Midata Hesed, des moments où il faut s'abstenir et il faut agir avec rigueur, etc. Parce que à chaque temps correspond une qualité, une Mida. Donc, nous sommes dans cette construction-là. Et c'est pour ça que nous répétons les mitzvot au quotidien, les mêmes mitzvot, toujours, jour après jour. Alors, je vous invite à lire l'Agdama du Rachash, Rechovot Hanar, qui développe le concept de temps. Donc, il a, dans Rechovot Hanar, il développe ce concept, qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que la vie de chacun? Comment il se construit? Comment il s'inscrit dans le temps universel? Et à quoi ça correspond? La qualité de sa vie, la qualité de son temps. Et comment il se construit au fur et à mesure des jours qui passent? Et chaque jour correspond à une énergie spécifique. Rambam aussi dit ça dans Der Bamaron, dans plusieurs endroits. Donc nous sommes le soir de Pessah, c'est le jour de la naissance de Am Yisrael. Le jour où nous allons prendre conscience de nous-mêmes. Donc, on est obligé de se construire. C'est ça, le plateau. Nous construisons le plateau, nous plaçons les éléments qui composent nos énergies de la conscience, des émotions et des actes. C'est une importance capitale. Donc, ceux qui savent les kavanot, donc ils préparent le plateau. Le plateau, c'est le malchut. Et je place les éléments de sorte, du haut vers le bas, de sorte que les éléments, ils soient en harmonie. C'est pas placé n'importe comment. C'est avec une kavana tehila pour que ça produise. Il faut être efficace. Il faut faire les choses que ça produise de l'effet. C'est pas la mitzvah. Encore une fois, c'est ça le défaut qu'il y avait. Certainement, c'est ça le défaut qu'il y avait à l'époque de Mordechai quand Haman a pris le pouvoir. C'est que les gens pratiquaient la mitzvah pour la pratique. Ils pratiquaient la mitzvah pour la pratique sans efficacité. Ils n'ont pas trouvé, la mitzvah ne les nourrissait pas, ne les faisait pas vivre. La mitzvah, c'était une mitzvah qu'il faut appliquer. Mais est-ce que la mitzvah te fait vivre? Est-ce que dans la mitzvah, tu puises des énergies nouvelles? Est-ce que quand tu mets les tefillin le matin, est-ce que tu sens que tu t'imbibes des énergies de tefillin? Est-ce que tu te sens différent, hein, objectivement? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Ou bien non, je fais une mitzvah. J'ai compris ce que Dieu a vu, mais en vérité, moi, je ressens rien. J'ai rien acquis de spécial. Et ça, c'est ça le travail fondamental qu'il faut que nous arrivions à travailler pour que la mitzvah soit efficace. Et en particulier sur le Pessah, nous devons établir la conscience. Nous avons l'obligation d'établir notre conscience de manière solide, la conscience d'exister, notre relation à Kadosh Baruch Hu, ce que nous lui devons. Alors on doit bien prendre conscience que c'est d'une importance capitale. Comment on arrive à cela? Alors nous allons lire la Gada de Rab Shimshon d'Ostropoli. Vous êtes avec moi?
Oui, oui.
Oui, c'est bon, alors voilà. Il n'y a pas de questions pour le moment, on continue. Allô?
Ben, on peut écrire les questions, de toute façon, s'il y a des questions.
D'accord, alors tout le monde a le texte. Alors, je vais lire le texte. Alors, j'ai le texte ici, je vais vous lire le texte. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais on va essayer d'aller à l'essentiel.
Le Donc, temps qu'il faut, le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut.
Alors voilà. En fait, j'entends quelqu'un qui parle là-bas, je ne sais pas qui c'est. Allô?
Oui, Michel, tu prends le temps qu'il faut?
D'accord, d'accord, mais j'entends quelqu'un qui parle. Je ne sais pas, ça, si c'est à moi qui parle ou à quelqu'un d'autre. Il y a un
micro. Normalement, il n'y a pas d'autre micro ouvert, Michel. Ok, très
bien. Alors, regardons.